20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le rendez-vous des grands moments de l'actualité, le rendez-vous de nos souvenirs communs. Ce soir, notre Jour J est le 11 mars 1984. Sur le plateau de l'émission de TF1 7 sur 7, Gainsbourg brûle un billet de 500 francs pour protester, selon lui, contre le racket des impôts.
Je prends un billet de 500 balles, je suis taxé à 74%. C'est bien que ça c'est illégal ce que je veux faire. J'arrêterai à 74%. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein, c'est pour le nucléaire et tout le...
Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça?
Oh, écoutez, c'est mon pognon, j'en ai rien à cirer. Voilà, là, ce qui me reste, c'est 500 balles.
Nous sommes le 11 mars 1984. Scène surréaliste sur le plateau de l'émission politique 7 sur 7 sur TF1. Alors que le journaliste Jean-Louis Burgal interroge au sujet des impôts, Serge Gainsbourg s'empare de son zippo, posé sur son célèbre paquet de gitanes, murmure d'une voix avinée « Si on me fout en tôle, j'en ai rien à cirer » et met le feu à un billet de 500 francs. « Ça, c'est pas une parabole, c'est du physique », a-t-il prévenu quelques secondes avant. Autrement dit, je vais vous démontrer ce que d'aucuns pourraient juste vous énoncer. En s'attaquant à un symbole, en flambant un pascal, nom alors donné à ce billet à l'effigie du philosophe, l'artiste veut dénoncer ce qu'il appelle le racket des impôts, lui qui est imposé à 74%. Tollé général, les téléspectateurs dégoûtés éteignent leur télévision, le standard de TF1 explose, le scandale est immédiat. Geste perdu d'un artiste sous l'emprise de la boisson ou acte politique devenu séquence d'anthologie. Une chose est sûre, dans les années 80, à l'heure de la télévision en direct et sans filet, recevoir Serge Gainsbourg, c'est courir un risque. Celui de choquer l'opinion, tout autant que celui de faire un carton. Car Gainsbourg, c'est le roi de la provocation. On parle alors de Gainsbar. Chacun de ses passages entraîne un cortège de réactions scandalisées. 2 ans plus tôt, il a asséné un « vous devriez crever » à des journalistes de Minute sur le plateau de droit de réponse de Michel Polac, en réponse à ceux qui revenaient sur sa sulfureuse reprise reggae de la Marseillaise, rebaptisée « Aux armes, etc. ». Dans 2 ans, il portera outrage à l'actrice américaine Whitney Houston sur le plateau de Champs-Élysées et insultera la chanteuse Catherine Ringer sur celui de Michel Denisot, puis il s'écharpera avec Guy Béard dans Apostrophe. Pourtant, Serge Gainsbourg, c'est aussi un enfant meurtri par la guerre et l'antisémitisme. Un homme généreux, trop parfois, qui n'hésitait pas à aider l'inconnu, à donner 500 balles, comme il le disait, à un taxi quand la course n'en valait que 15. C'était la passion de la peinture, une écriture d'orfèvre et une immense élégance sous des contours de négligence. Portrait ce soir d'un flambeur de billets, certes, mais pas que, évidemment. Dans un instant, le journaliste Bertrand Dical reviendra sur la vie de Gainsbourg, son génie, ses failles et ses provocations. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Le 11 mars 1984, Serge Gainsbourg met le feu à l'opinion en brûlant un billet de 500 francs en direct à la télévision. Il voulait, selon ses termes, dénoncer le racket des impôts, une séquence devenue culte qui fait l'objet de notre Jour J. Jusqu'à 21h, en direct sur RTL. Bertrand Dical, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Vous êtes journaliste et auteur du livre « Tout Gainsbourg » chez Grund. Alors ça, c'est un jour J, parmi tant d'autres jour J, je dirais, hein, au sujet de Gainsbourg. Celui-là, quand même, il reste particulièrement inoubliable, mémorable en tout cas. Est-ce que c'est pour sa portée politique ?
Certainement pas pour sa portée politique. Certainement pour son absurdité. C'est-à-dire que même les fans de Gainsbourg sont un peu gênés aux entournures. Enfin, il faut quand même admettre, même un gamin qui idolâtre Gainsbourg, 500 francs de l'époque, c'est pas énormément d'argent. Le SMIC, si je me souviens bien, est au-delà de 3500 francs. Je me souviens qu'à l'époque, les 33 tours, hein, 33 tours, ça coûte à peu près 100 francs. Donc, pour un lycéen hyper fan de Gainsbourg, donc qui regarde depuis 40 minutes Gainsbourg dans l'émission de ses parents, dans une émission d'information à la télé, c'est pas passionnant. Soudain, il se passe ça, mais en même temps, c'est 500 balles. Mmh. Et ce côté punk, ce côté nihiliste, ce côté complètement absurde de brûler un billet de 500 balles, quelles que soient les raisons pour lesquelles on le fait, ça va gêner tout le monde aux alentournures. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit anarch, qu'on soit réac...
Mais ça met mal à l'aise.
Ça met quand même pas mal mal à l'aise, surtout que ça vient au bout d'un long moment d'émission de télé, où Gainsbourg est quand même assez limite tout du long.
D'accord. Donc quand vous dites limite tout du long, est-ce que ça gêne parce qu'on a un moment de gêne face à un Gainsbourg qui est sous l'emprise de l'alcool et qui, comme il nous a réservé parfois certains moments, semble être un petit peu à la dérive. Donc on a cette gênance finalement, on se sent voyeur de quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Ou est-ce qu'on est gêné aussi par la portée du geste qui est de brûler 500 balles quoi ?
En fait, brûler 500 balles, déjà,
même si
en
c'est
soi,
pas grand chose,
bizarre,
ça reste énorme.
Ça fait bizarre, mais aussi la raison pour laquelle il le fait.
Voilà.
C'est-à-dire que les fans de Gainsbourg sont un petit peu révoltés, un petit peu anticonformistes, un petit peu anti-papa, un petit peu de gauche souvent. Et il tient un discours de droite avant de brûler le billet. Il fait toute une espèce de blague salace, qui est en plus pas très drôle, sur le socialisme et le communisme. Il parle des socialo-communistes, ce qui est vraiment la signature de la droite-droite en France à l'époque. Donc, pour plein de gens, pour plein de gamins même, pour plein de fans et même d'adultes, c'est quand même une surprise. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Gainsbourg ? Celui de la Marseillaise, celui qui avait mis en colère les paras, celui qui paraissait anti-militariste, on découvre soudain que c'est un mec de droite.
Alors, Gainsbourg, il est revenu sur cet événement, c'était un an après, on va l'écouter au micro de la journaliste Evelyne Pagès.
Expliquez pourquoi vous l'avez brûlé, ce billet. Vous vouliez montrer ce que les impôts vous prenaient, c'est
ça ? Ah ben voilà. Oui, mais c'est bien ce que j'ai dit.
Mais c'est maladroit. Je veux dire, là, si
non,
vous vouliez vendre des disques,
tout,
vous
extrêmement...
avez raté votre coup.
Absolument pas. J'ai eu pour 500 briques de publicité. J'étais à la une de tous les canards. Ben, allons.
Il n'y a pas de morale, c'est dégoûtant.
Non, il n'y a pas de morale.
Voilà, tout ça, c'était sur RTL. Donc, Evelyne Pagès, Serge Gainsbourg en 1985. Il ajoutera justement également que le lendemain, tout le monde se marrait dans la rue. C'est vrai ou pas, alors ?
Oui, alors, c'est aussi le paradoxe de notre société. C'est aussi le paradoxe de ce que nous sommes. C'est-à-dire que évidemment on est choqué, mais évidemment, on dit « Waouh, chapeau l'artiste !» Enfin, c'est, excusez-moi l'expression, c'est quand même un peu couillu. C'est quand même... On sait qu'il va y avoir un scandale, il sait que ça va faire scandale, ça fait scandale, donc on est un peu obligé d'applaudir. Et c'est aussi notre rapport aux artistes. Et Gainsbourg joue beaucoup sur ce truc-là, il pousse très loin. C'est-à-dire que vous avez au bistrot le lendemain matin, les gens qui disent « Ouais, quel con, fait chier, il est mal rasé, etc. » Il se fait injurier de toutes les manières possibles et imaginables, il passerait dans la rue... Les gens lui diraient « Salut Gainsbourg, on lui demande un autographe ». Mais c'est aussi comme ça que nous sommes, tous.
Est-ce qu'il avait prémédité ça ? Parce qu'Evelyne Pagès lui a demandé, il dit non, pas du tout.
Alors, il semble que oui, quand même. Il semble que oui, il y a des témoignages, Jane notamment. Il y a un certain nombre de gens qui disent que oui, il avait prévu quelque chose. De toute façon, il avait déjà brûlé des billets. Pendant un tournage au début des années 60 en Yougoslavie, il avait allumé une cigarette avec un billet de 100 dinars dans la Yougoslavie communiste de l'époque. Alors ça coûtait quelques centimes français, mais il s'était quand même retrouvé au poste pour s'expliquer. Il l'avait fait dans un restaurant quelques temps avant.
C'était super dur ça, avec
un serveur.
Sur le pourboire.
Oui, voilà. Il lui a dit, ben voilà, le serveur lui était très désagréable, très antipathique. Il a brûlé un billet de 500 balles en disant, ben tiens, voilà ton pourboire. Donc
il était coutumier du fait.
Pas coutumier du fait, mais ça fait partie des choses. Mmh. Mais ça fait partie des choses qui prennent à plein de gens. Les surréalistes, les dadaïstes ont fait des choses de cet ordre-là. Il y a eu, dans les années 30, des gens qui brûlaient des actions. Ce qui, là, pour le coup, valait potentiellement beaucoup plus cher au moment de la crise des emprunts russes d'abord, puis ensuite de la crise de 29. Des gens qui solennellement, alors c'était pas du tout des artistes de variété, qui solennellement brûlaient devant le tribunal ou devant les députés, brûlaient leurs actions. Donc, c'est une symbolique extraordinairement forte. Et j'allais presque dire une symbolique médiévale. Enfin, c'est-à-dire qu'on va chercher très très loin. C'est-à-dire qu'en faisant ça, Gainsbourg, il va chercher très très loin dans l'inconscient de notre société.
Est-ce que c'est vrai qu'il s'est senti un petit peu merdeux après ? Qu'il a regretté ce geste ?
Gainsbourg a regretté énormément de choses, et notamment ses passages télé. Alors, quand on parle du Gainsbourg de la télé, on va en parler beaucoup, là, j'ai l'impression, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'à un moment, il a arrêté. À un moment, les dernières années de Gainsbourg à la télé, même quand les animateurs essaient de le pousser, vous ne trouvez pas qu'il est un
Alors,
peu...
Justement.
Vous trouvez pas qu'il se tient à carreau. C'est cette période-là, ça dure quelques années, mais alors, effectivement, il y a de quoi tenir des heures à regarder tout ce qu'il a fait à la télé.
Alors, on va écouter des extraits hein, ce soir, évidemment, et on verra effectivement que certains animateurs boivent du petit lait. C'est ce que je disais il y a un instant, hein, c'est que c'était aussi faire un carton. C'était un événement d'avoir Gainsbourg, on savait toujours à l'époque de la télévision en direct qu'il allait se passer quelque chose. Parmi les autres faits d'armes de Serge Gainsbourg, il s'attaque un jour à la Marseillaise. Nous sommes en 1979. On revient sur ce son aux armes, etc. Et on se retrouve dans un instant, Bertrand Dical. On reviendra sur la polémique qui va suivre la sortie de ce titre. A tout de suite dans Jour J.
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats.
Jour J vous emmène ce soir dans l'univers de Serge Gainsbourg. Nous sommes en 1979. Il s'attaque donc à la Marseillaise. Quelques années plus tard, il brûlera un billet de 500 francs en direct sur le plateau de 7 sur 7 sur TF1. Notre invité est Bertrand Dical jusqu'à 21h. Racontez-nous, Bertrand Dical, la polémique qui va suivre la sortie de ce titre de Serge Gainsbourg.
Alors, faut pas oublier que Gainsbourg a commencé sa carrière en 1958, on est 21 ans après, ouais. Quasiment. Donc, tout le monde le connaît, mais il n'a jamais eu de succès. C'est pas une star. Il a fait « Je t'aime moi non plus » en 69, petit scandale, enfin gros scandale, mais Gainsbourg est un personnage plus qu'un artiste avec une œuvre. C'est pas un grand chanteur. Et soudain, on voit arriver cette chanson enregistrée en Jamaïque, avec les meilleurs musiciens jamaïcains de ce moment, qui sont au meilleur moment de leur carrière, c'est-à-dire que Sly the Mar, Robbie Shakespeare, l'année 79 de Sly the Mar, Robbie Shakespeare, c'est la plus belle année de l'histoire du reggae. Donc, il arrive avec cet album, fait avec les meilleurs musiciens jamaïcains, et une chanson qui lui est venue à l'idée, en découvrant que, 2 ans plus tôt, en 77, les Sex Pistols ont fait God Save the Queen, qui est une chanson qui reprend le titre de l'hymne national britannique, mais qui est une autre chanson. C'est pas l'hymne national. Et Gainsbourg dit, mais non, ce qui serait rigolo, ça serait vraiment de faire en punk l'hymne national. Sauf que il part faire cet album en Jamaïque, donc il en fait une version reggae. On pense pas vraiment à ce moment-là que ça va être un tube, mais immédiatement, d'ailleurs ça sort en face B d'un 45 tours, mais immédiatement tout le monde retourne, c'est un reggae extraordinaire, tout le monde connaît les paroles, c'est pas compliqué, c'est rigolo, c'est marrant, et au début c'est pas un scandale, c'est-à-dire que l'album sort la chanson sort en mars, pendant des mois c'est pas un scandale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui protestent, mais il y a des gens qui trouvent ça génial, et puis il y a cet édito de Michel Droy, et qui est quand même, il faut bien le dire, un sommet de bêtises rhétoriques, c'est dans le Figaro magazine, où Michel Droy dit « Gainsbourg incite à l'antisémitisme parce que, comme il est juif, l'offense qu'il fait à la Marseillaise va être comprise comme quelque chose qui va exciter les antisémites ». Bon, il se rend pas compte que en disant ça, en disant que quand un juif s'exprime, ça n'a pas exactement le même sens que quand quelqu'un d'autre s'exprime, c'est réellement antisémite. Et en plus, ça devient vraiment un scandale. Ça devient vraiment un scandale parce que l'affaire devient politique, on est au début de l'été, donc ça relance les ventes, ça relance la diffusion de la chanson à la radio, ça relance l'intérêt d'une grande partie du public pour cette chanson et pour cet album, sauf que entre-temps, Gainsbourg est devenu une star.
Ouais.
C'est-à-dire que il a vendu plus de 500 000 exemplaires de l'album et c'est plus un chanteur marginal, c'est devenu une énorme star.
Et ça réveille aussi chez Gainsbourg des drames passés.
Ça réveille quelque chose chez Gainsbourg qui est quelque chose dont il n'a pas parlé. Mais
ce petit garçon avec cette étoile jaune.
Il n'a jamais trop parlé, c'est l'étoile jaune, hein, faut pas oublier. Il est né en 1928.
Et Ginsburg.
Lucien Ginsburg se retrouve avec l'étoile jaune à 12 ans. Et c'est un réel traumatisme, c'est le réel traumatisme de l'étoile jaune, du fait qu'il n'a plus le droit d'aller à l'école, qu'il n'a plus le droit d'aller jouer dans les squares, que la famille est obligée de partir se cacher en province, de se séparer. Lui-même, il est dans un pensionnat.
Il échappe à une rafle.
Un de ces pensionnats des justes de France, c'est-à-dire des gens qui risquent leur vie, les enseignants, les directeurs, les surveillants du pensionnat à sauver Gainsbourg comme d'autres. Et il se cache sous un nom, et c'est très important, je pense, il se cache sous le nom de Lucien Guimbard. Et à la faveur de toute cette crise, Gainsbourg réalise qu'il n'a pas cessé d'être un juif en France. Certes, il ne porte plus l'étoile jaune, mais soudain, on l'a désigné comme juif au moment où il est en train de devenir une star. Et c'est certainement là, je ne suis pas psychanalyste, mais c'est certainement là que naît le fameux Gainsbard.
Voilà.
La rencontre de Gainsbourg et de l'enfant Guimbard dans un contexte où il se sent plus que jamais agressé par ce côté obscur de la France.
Et puis il y a une autre polémique, je voudrais qu'on y revienne, c'est un an après, avec les paras lors d'un concert à Strasbourg. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Alors Gainsbourg revient sur scène, Gainsbourg devient une star. Hein. Ça fait quelques années, en revanche, en 1965, qu'il avait décidé de ne plus monter sur scène. Il était mauvais sur scène, il avait un trac épouvantable. C'était un moment où sa carrière était quasiment à l'abandon. Enfin, 65, il arrête de monter sur scène. 79, bon, il est monté quelques fois sur scène avec le groupe Rock Bijoux, mais pour une chanson, deux chansons, trois chansons. Et en 79... l'idée vient, faisons des concerts. Donc les musiciens reggae viennent de Jamaïque, ça ne peut se faire qu'en toute fin d'année, donc c'est les fameux concerts au Palace, ces concerts extraordinaires à Paris, d'une puissance phénoménale. Et puis ensuite, il y a quelques concerts, il y a Lyon, Strasbourg, Bruxelles, et quand il va à Strasbourg, il y a un groupe de paras, d'anciens paras, d'une association d'anciens paras, qui est dirigée d'ailleurs par un ancien parachutiste qui a été viré de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie, donc pas tout à fait un militaire de gauche, et il se rassemble dans la salle de concert à Strasbourg. Les musiciens reggae ne veulent pas monter sur scène, il y a toute une série de tensions, et c'est ce moment extraordinaire saisi par les télévisions où Gainsbourg monte sur scène, il dit « il n'y aura pas de concert ». Il n'y aura pas de concert, la foule hue, et il dit « je vais vous inviter à chanter la Marseillaise avec moi ». Et là, les paras se mettent au garde à vous, sont obligés de chanter la Marseillaise, les punks, les gamins, les rastas, tout le monde se met à chanter la Marseillaise, et on se rend compte en fait que la Marseillaise reggae de Gainsbourg, c'est pas une offense à la Marseillaise, c'est aussi un hommage à la Marseillaise.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous sur RTL, sur RTL.fr ou sur Radio Player France. Des caméras sont dans notre studio si vous souhaitez avoir le sentiment, là, comme ça, d'être avec nous. N'hésitez pas, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 21h. Jour J qui revient ce soir sur la vie de Serge Gainsbourg, qui naviguait entre la poésie et parfois aussi les séquences de caniveau. Un génie de la musique, un génie de la chanson et un homme à femme, Bertrand Dical. Vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Oh, si.
Oui, évidemment.
Et moi, je serais tombée sous le charme, je pense.
Évidemment, c'est un homme à femme. Donc, il l'a raconté 2000 fois, en long, en large, en travers, en chanson, en interview, en confidence sur l'oreiller. Il collectionne les râteaux pendant toute son enfance, son adolescence. Il est le plus laid de l'école, il est le plus laid de la bande, il est le plus laid du lycée. Et il a... En 1947, une chance extraordinaire, il a 19 ans, il rencontre une jeune fille sublimement belle qui s'appelle Lise Levitsky, qui est d'origine russe comme lui, mais qui elle est blonde comme les blés, qui était mannequin pour de la lingerie. C'est vous dire qu'elle n'était pas tout à fait laide. Et c'est son premier amour. Alors bien sûr, comme les garçons de cette génération avant, il était allé de temps en temps chez les prostituées, mais payé par son père. Mais puisque c'était comme ça.
Ce qu'on considérait comme étant une éducation à l'époque.
L'éducation de l'époque. Il va toute sa vie être un immense séducteur, obsessionnel, parce qu'il a ce défi incroyable de sa laideur.
Ouais. Et qu'il poursuivra. C'est-à-dire qu'il sera toujours poursuivi par ce jeune ado ingrat aux oreilles décollées, quoi.
Et par ce jeune ado et puis par cet adulte, parce qu'à aucun moment de sa vie, Gainsbourg ne bénéficie de ce qui arrive à la plupart des hommes, d'avoir un bon moment physiquement. Lui, non, pas vraiment. Il a le même nez, les mêmes oreilles, la même peau, la même façon de se tenir voûté, la même timidité, les mêmes tremblements nerveux qui lui prennent dès qu'il est sur scène, dès qu'il est devant quelqu'un. Juliette Gréco le raconte, quand il va la voir pour la première fois pour lui proposer des chansons, elle lui offre un whisky, il a les mains tellement moites et il tremble tellement que le verre de whisky finit par terre. Et quand elle lui dit « mais je vais vous en servir un autre », il dit « non ». Enfin, il sait que le verre retombera, donc c'est pas la peine.
Mais il a fait tomber quand même les plus belles femmes.
Effectivement. C'est-à-dire que cet homme-là qui a une histoire avec Brigitte Bardot, qui est officiellement la femme la plus belle du monde à cette époque, ça donne quand même le vertige. Et il dira aussi, et il faut bien reconnaître qu'il dit certainement la vérité, que ce n'est pas que la beauté qui le fascine. C'est vrai qu'un certain nombre de ses compagnes sont extrêmement belles, mais ce sont des personnalités extraordinaires. Ouais. Lise Levitsky, Jane Birkin, Bambou. Brigitte Bardot sont des femmes extraordinaires.
Mais lui, il l'était aussi pour les faire chavirer. C'était sûrement le génie de Gainsbourg qui parlait à ce moment-là, non ?
C'est un vrai poète. Et surtout, chose qu'on n'imagine pas beaucoup, c'est que Gainsbourg est d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une galanterie absolument exceptionnelle. Mais notre mémoire retient autre chose.
Eh ben alors justement, expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Personne n'a oublié sa rencontre avec Whitney Houston. C'était sur le plateau de Champs-Élysées en 86, devant un Michel Drucker qui tout simplement boit du petit lait.
He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu voulais dire.
Non. I said I want to fuck her.
Oui, alors je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. C'est non. Il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout. J'ai dit je voudrais bien la baiser.
Mais il a dit.
Alors là, Bertrand Dical, c'est quoi ? C'est l'alcool et puis en même temps, il est poussé à cette époque-là ?
C'est l'alcool, c'est l'adrénaline, Michel Drucker le dit aujourd'hui, hein, c'est un des pires moments de gêne de toute sa carrière, parce qu'il y a quelque chose qu'on perçoit pas forcément, nous, ici, aujourd'hui, à cet endroit et devant la télé, mais d'abord, il a plus de 50 ans, nettement plus, et c'est un homme blanc devant une très jeune femme noire. Et aux États-Unis, par exemple, l'extrait que vous avez passé, qu'on a passé là à l'instant, serait totalement impossible à passer.
D'ailleurs,
dans
il n'a pas
média.
Été diffusé à cette
il
époque-là.
Il semble qu'il n'ait jamais été diffusé avec le son. Tellement l'offense est vertigineuse. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre, parce que quand on connaît le hip-hop américain aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est aussi une grande schizophrénie américaine. Ce qui se passe, c'est l'alcool, c'est le spectacle, c'est aussi les années Gainsbourg, dans lesquelles il est parfois d'une violence verbale vertigineuse, avec les femmes, avec les hommes d'ailleurs, avec tout le monde. Il peut traiter de fils de pute des gens dans la rue ou sur des plateaux de télé. Il peut injurier quelqu'un pour se réconcilier 30 secondes après avec lui. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup une question d'alcool. Et ça, on est vraiment dans le Gainsbourg alcoolisé des plateaux de télé à une certaine époque.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va revenir sur Gainsbourg, l'artiste. Et justement, là où il plaçait les arts, c'était très haut dans son estime. Et pourtant, il considérait, vous allez l'entendre dans un instant, que la chanson était bien souvent un art mineur. À tout de suite.
Havane. Je vois ces nuages gris.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve, Dieu est un fumeur de Havane. Alors, on parlait de Gainsbourg et des femmes, Bertrand Dical. Deneuve, c'est quoi? C'est une amitié?
C'est une immense amie. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur le tournage du film de Claude Berry, Je vous aime. Enfin, ils se connaissent déjà, hein. Ouais. Mais ils travaillent ensemble, hein, sur ce film. Elle est l'héroïne, il est un des héros, et le héros principal. Il y a aussi le fait qu'il a plus de temps de tournage avec elle, parce que c'est plus étalé dans le temps, parce qu'il faut qu'ils enregistrent les chansons avant. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que c'est long. Et puis, c'est le moment où Jen quitte Gainsbourg et où Jen dit à Deneuve, s'il te plaît, occupe-toi de Serge, qui est très malheureux. Et c'est vrai, elle s'en occupe. Donc, ils passent des soirées entières à picoler ensemble et ils deviennent réellement des amis.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J. Jour J qui ce soir s'intéresse à Serge Gainsbourg, Bertrand Dical, vous avez mal au dos?
Oui, pardon, excusez-moi.
Voilà. Non mais je vous en prie, mais installez-vous tranquillement, Bertrand Dical est notre invité jusqu'à 21h. Gainsbourg donc est à la une de Jour J, Gainsbourg qui place très haut les arts dans son estime, mais étrangement la chanson n'en fait pas partie. Nous sommes en 1986 sur le plateau d'Apostrophe, parmi les invités de Bernard Pivot, Bertrand Dical, il y a Gainsbourg et Guy Béard.
Un art majeur devant une initiation. Pas un art mineur, comme ce que les conneries que nous faisons, nous.
Mais quel est, pour le surréalisme, qui vous avez influencé?
C'est rien de mineur, une chanson.
Mais si, mon petit gars. Mais qui c'est y a, le connard, là?
Ah non, c'est Béard qui te parle.
Oui, mais j'ai bien compris.
En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson? Ça rencontre
oui,
les
c'est
gens.
Mineur. C'est mineur.
Mais non, il
n'y
a rien de mineur. Parce que si tu rates la peinture...
Tu n'as pas besoin d'initiation.
Mais tu as besoin
pour la chanson. Oh. Tu as besoin d'initiation pour la peinture, pour les arts majeurs.
Alors, il voue une passion à la peinture.
C'est une passion. Alors, c'est déjà la passion de jeunesse de son père,
voilà.
Peintre déçu, et c'est sa passion à lui.
Oui.
Donc, il rêve de devenir peintre.
Peintre.
Tout le monde lui dit qu'il pourrait devenir un peintre génial. Et en fait, c'est ce qui s'est révélé ces dernières années quand on a pu enfin faire parler Lise Levitsky, sa première épouse, hein, qu'il a rencontrée en 1947. Ils se sont séparés en 1957 quand il commence à chanter. C'est que, en fait, il a très peu peint. C'est-à-dire qu'il parle de la peinture, il a une passion pour la peinture, il rêve d'être peintre, mais il peint pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'il a fait, allez, 15 ou 20 tableaux pendant une quinzaine d'années.
C'est dans sa tête, quoi.
C'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Mais on a tous une cousine qui rêve de la faire de la poésie comme Baudelaire, ou un copain qui rêve de d'élever des chevaux.
C'est pas faux.
Voilà. Ben, Gainsbourg et la peinture, c'est un peu ça. Sauf que il surévalue totalement, il idéalise ça et il dévalorise ce qu'il fait lui.
Alors il dira, parce que bon, il s'écharpe quand même avec Guy Béard. Bon, on va passer assez rapidement là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ne s'entendaient pas, ils se connaissaient depuis longtemps.
Ils se connaissent depuis une trentaine d'années.
Ils ne s'aiment pas tellement.
Et ils se méprisent depuis une trentaine d'années.
Voilà, d'ailleurs, on l'entend très bien à travers leurs mots. Il dira autre chose dans cette même émission, Serge Gainsbourg. Il dira que certaines de ses chansons à lui pouvaient être élevées au rang d'art majeur, comme Melody Nelson.
Voilà, alors c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a
retenu... Et pend dans la tronche de Béard.
On a retenu qu'il a dit que la peinture, que la chanson est un art mineur, mais il dit, alors il cite Melody Nelson, Dépression au-dessus d'un jardin, des chansons qu'il écrit pour Vanessa, et puis des chansons pour Jen, il commence à faire une énumération, et en fait, c'est Bernard Pivot qui l'interrompt, parce qu'autrement, il serait peut-être toujours en train d'énumérer. C'est-à-dire qu'il a cette idée... qui est en fait une idée qui date des années 50, parce que la polémique art mineur, art majeur, c'est une polémique qui date des années 50, vraiment. Et lui, il la réveille comme ça dans les années 80, alors que c'est une vieille dispute qu'il avait eue. On a retrouvé une interview croisée avec Léo Ferré en 1961, où il s'engueule déjà là-dessus.
Déjà.
Léo Ferré qui dit « c'est un art majeur, c'est la noblesse, la poésie », et Gainsbourg lui dit « mais non, on est en train de vendre notre cul, on est des putes voilà. ». Voilà, c'est déjà ce débat-là, mais c'est aussi une profonde blessure de Gainsbourg qui aussi, même dans cet art mineur, a mis très longtemps à percer. Oublions pas ça. Hein. C'est-à-dire que Gainsbourg, il a des succès avec des chansons chantées par d'autres, Poupée de cire, Poupée de son, 65 par France Gall. Il a son succès avec Je t'aime moi non plus en 1969, mais autrement, jusqu'à 79, jusqu'à la Marseillaise reggae, jusqu'à Aux armes, etc., il n'a pas de succès. Donc, il peut d'autant plus dire que c'est un art mineur qu'il est mineur dans cet art mineur.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il faut rappeler qu'au début de Gainsbourg, les chansons, elles étaient censurées. Même certains artistes que d'aucuns pourraient trouver conventionnels, un peu chanteurs à papa comme Brassens, pouvaient être censurés.
Oui, parce qu'il y avait l'audiovisuel était public, exclusivement public à l'époque, et il y avait le comité d'écoute de la radiodiffusion française. Alors c'est une histoire très très singulière, parce que on imagine que cette censure était exercée par des militaires, des fonctionnaires, des proviseurs de collèges et des curés. Pas du tout, c'est des artistes. Et parmi les artistes, il y avait Agnès Capri, il y a eu Paul Colline, il y a eu des gens même qui ont eu des problèmes pendant la guerre avec la censure allemande, des gens qui ont risqué leur peau.
Comme,
et en fait, ils écoutaient tous les disques. Et 90% des disques qui censuraient étaient en fait des mauvais disques. Ils disaient, c'est de la daube, c'est pas bien. On va pas passer ça à la radio parce que c'est pas bien. Et de temps en temps, ils disaient, oui, on va pas passer ça parce que le déserteur, c'est quand même un petit peu... Non, politiquement, on peut pas. Et il y avait effectivement cette censure politique. Mais Brassens, faut pas oublier, les deux premiers 78 tours de Brassens, censurés. Greco, sur tous ses disques, il y a des chansons censurées. Gainsbourg aussi, Guy Béard aussi, Léo Ferré aussi. Et puis des choses plus inattendues, dès qu'il y avait une fesse dans une chanson, hop, elle passait par la radio. Mais même dès qu'il y avait le mot ventre. Le mot « ventre » dans une chanson suffisait à faire censurer une chanson.
Alors, dans un instant, on va écouter une chanson que moi, je connaissais, mais que j'ai redécouverte en préparant cette émission. C'est Evgeny Sokolov. Et ce sera dans un instant. Vous verrez que parmi les provoques de Gainsbourg, il y a également celle-ci. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct depuis les studios de Neuilly sur RTL avec Bertrand Dical. On parle donc de Serge Gainsbourg. Vous nous parliez il y a un instant de cette censure qui quelque part sévissait, j'irais, sur le monde de la musique dans ces années-là. Est-ce que vous pensez qu'elle attisait le goût de la provocation de Gainsbourg? Parce que c'est un peu comme un gamin, c'est-à-dire que plus on lui dit tu peux pas, plus il va tenter d'y aller.
Oui, mais lui comme Jacques Brel, d'une certaine façon, il avait envie de pousser les limites. Et c'était aussi un jeu avec le public. C'est-à-dire que dès que le public a commencé à voir que dans des chansons il y avait le mot con, c'était génial, tout le monde était content. La chanson parlait comme les vrais gens. Quand Paul Naref, en 65, je crois, dit « Je voudrais simplement faire l'amour avec toi », quelle révolution! Aujourd'hui, la chanson serait totalement banale, mais 65, c'est une révolution. Donc, il joue avec ça, il fait partie de ceux qui jouent le plus intelligemment avec ça.
Alors, vous parliez de Jacques Brel, je ne sais pas s'il aurait pu sortir une chanson comme celle qu'on va entendre dans un instant. Evgeny Sokolov, on est en 1981, les paroles sont très simples, écoutez bien, ce ne sont que des pets. Alors, moi, c'est tout con, mais j'adore. Non, mais attends. On l'a passé toute la journée au bureau quand même. Hein. Donc, alors, attends, mais ça, c'est... Bon, il avait écrit un roman en 80, l'histoire d'un pétomane.
C'est son roman, ça raconte l'histoire d'un peintre qui, pétomane. En gros, est pétomane. Et quand il pète, ça fait bouger le crayon d'une telle manière et le marché s'enflamme, etc. Et il devient une star de la peinture contemporaine. Bon, bref, ça nous raconte en gros ce que Gainsbourg pense de la peinture contemporaine.
Mais bien sûr.
Mais, ce qui est complètement fou, et je voudrais rendre hommage à mes confrères du Gainsbourg, autre excellent livre sur Gainsbourg, on s'est demandé pendant longtemps comment il avait fait, comme tout le monde. Eh ben non, Gainsbourg a vraiment enregistré des pets, les siens, avec un micro, penché devant le micro, en pétant devant
non
le micro.
Non mais attends.
Donc ça... En Jamaïque, enfin non, il enregistre à Nassau, juste à côté, au Bahamas, avec des musiciens, avec l'équipe des musiciens jamaïcains, ils sont outrés, mais outrés. C'est-à-dire qu'ils disent, mais on peut pas mettre ça sur du reggae, c'est un scandale. Donc même ses complices en provocation qu'on fait avec lui, la Marseillaise, là, ils disent, non mais ça va trop loin, enfin, ils le disent en anglais, mais pour eux, même pour eux, c'est extravagant. Et Gainsbourg, c'est ça, parce que, en plus, moi je me souviens quand cet album sort, j'avais quoi, 17 ans, je crois, J'étais ravi, j'étais comme un gosse, je battais des mains. Mais mon Dieu, comme c'est rigolo, comme c'est sympa, comme c'est amusant, comme c'est... Voilà.
Mais vous dites que Gainsbourg, en fait, c'est un génie à titre posthume.
Oui,
parce qu'il ne vendait pas tant que ça de son vivant.
Alors, de son vivant jusqu'à Aux Armes, etc., il ne vend pas. Et à partir de Aux Armes, etc., ça vend énormément. Alors, je suis désolé pour plein de gens. L'album le plus vendu de la carrière de Gainsbourg... Je vais pas vous faire la devinette, je vais directement vous dire la réponse. C'est You're Under Arrest, le dernier. Celui que personne n'écoute. Celui que plein de gens disent « Non, non, je ne l'ai pas acheté, c'est mes parents qui me l'ont offert. » Mais parce que c'est pour beaucoup de Gainsbourgophiles le plus mauvais album de Gainsbourg. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que on va mettre longtemps à comprendre que Gainsbourg est l'artiste idéal. C'est-à-dire qu'un artiste qui ose, qui est classique, qui change de direction régulièrement, qui touche à tous les genres, qui est à la fois sensuel, romantique, poétique, littéraire, rock, punk, dangereux, provocateur. L'artiste qui est tout à la fois, ben, l'artiste postmoderne dont on a besoin aujourd'hui, ben, c'est Gainsbourg. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand Gainsbourg meurt, en 1991, c'est le début de la postmodernité. C'est le moment où le public commence à avoir vraiment besoin de ce genre d'artiste-là, de cet artiste qui sait tout faire.
Et dites-moi, on en est où aujourd'hui de la chanson française, en fait ? Est-ce qu'il y a un héritage de Gainsbourg ?
Gainsbourg, c'est tout le monde. C'est-à-dire que vous interrogez un quatuor à cordes quelque part vers Tours, ils vous diront que Gainsbourg est dans leurs artistes préférés. Vous prendrez un jeune artiste de hip-hop français, parfois le seul artiste français de chansons qu'il connaît, c'est Gainsbourg.
Mais est-ce qu'il y en a qui secouent encore la bien-pensance ?
Oui, évidemment. Peut-être pas avec la constance de Gainsbourg, peut-être pas avec son génie, mais ça, il faudra attendre encore quelques années pour le savoir. Mais peut-être ailleurs que dans la chanson.
Vous connaissez évidemment la maison de Gainsbourg, un hôtel particulier au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e. En 2022, il va ouvrir ses portes, ce sera un musée.
C'est extraordinaire pour les fans.
Ça fait 30 ans qu'on attend ça.
Oui, ça fait 30 ans. Alors heureusement, il y a eu le très beau livre avec les photos de Tony Frank visitant cette maison. C'est un rêve, c'est une démonstration. Mais on va aussi découvrir quelque chose, c'est que c'est tout petit.
Ouais, c'est minuscule. Hein.
Tout petit.
On parle d'un hôtel particulier,
Et ça nous dit aussi ce qu'était Gainsbourg, c'est-à-dire un génie, mais à une échelle économique qui, pendant très longtemps, était très modeste.
Merci beaucoup Bertrand Dical. Je rappelle donc votre livre « Tout Gainsbourg chez Grund », c'est quoi, 1000 pages ?
Peu plus de 1000 pages, oui.
Un peu plus de 1000 pages. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce voyage musical. On se retrouve demain dès 20h sur RTL. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean et Bonus Track. Bertrand Dical, merci beaucoup. C'est la première fois que je termine une émission sur Evgeny Sokolov et un concert de paix. Bonne soirée sur RTL et à demain.